Grenoble-Alpes Métropole présente Le féminisme fait le printemps, quatre rencontres avec des personnalités inspirantes pour mettre en lumière certains enjeux des luttes féministes. Lucille Pétavin, conférencière et essayiste, a publié Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes. Partant du constat de la surreprésentation des hommes dans les comportements violents et à risque, elle démontre le poids de ces actes dans les finances publiques.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc, simplement, vous souhaitez la bienvenue donc, à cette première du féminisme fait le printemps. Et sans autre transition, je vais laisser la parole donc, à notre président Christophe Ferrari.
Merci, bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots avec d'abord le premier plaisir de voir le siège métropolitain provisoire s'ouvrir au public. La métropole est connue pour construire des réseaux de chaleur, construire des réseaux cyclables, aménager des zones économiques, fournir des mécanismes d'aide pour les zones à faible émission, donc ramasser nos poubelles tous les jours durablement, fournir de l'eau, du robinet, depuis la production jusqu'à celui que l'on donne au biberon des enfants dans cette agglomération. Donc c'est un plaisir, effectivement, de voir aujourd'hui ce lieu ouvert au public et de vous voir aussi nombreuses et nombreux pour tout simplement ce moment particulier, cette conférence débat. Et vraiment, au nom de la métropole, je voudrais tout simplement vous remercier, vous souhaiter une belle soirée. Au nom de l'exécutif métropolitain, du conseil métropolitain, vous souhaitez évidemment la bienvenue dans cette maison. Mon plaisir et ma joie sont d'autant plus grands que le sujet est passionnant, à l'image des invités qui viennent nous présenter leurs travaux et leurs réflexions. C'est conscient de notre responsabilité en tant qu'élus, de la nécessité que le politique s'empare mieux de la lutte en faveur de l'égalité femmes-hommes et du rôle de la métropole que se doit d'endosser, que nous avons décidé avec Corinne Lemarié, conseillère déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Et vous me permettrez de saluer au passage, puisque ceci a été organisé par également Antoine Lebot, conseiller au cabinet du président et de l'exécutif métropolitain qui ont fait ce travail-là. Bien sûr, les services métropolitains, la maison pour l'égalité femmes-hommes, qui est, dont nous sommes très très fiers et très heureux d'avoir sur ce territoire. Donc je voudrais saluer et remercier Corinne pour son engagement et le travail qu'elle mène sur ces sujets au quotidien en permanence. Élue également de la commune de Vars, Allières et Rissé. Les politiques publiques sont encore trop timides face à la question du genre. Nous devons porter une approche plus transformationnelle à l'image de ce qui nécessite d'être porté sur la question de la transition écologique. Notre volonté politique à la métropole s'est notamment matérialisée par l'organisation de ce cycle de quatre conférences ouvertes à tous et toutes que nous avons intitulées « Le féminisme fait le printemps ». Quatre conférences qui verront l'intervention d'autrices de contenus variés, mais qui toutes se rejoignent sur la lutte en faveur de l'égalité femmes-hommes. Lucille Pétavin, merci infiniment d'être là, qui nous fait l'honneur de venir lancer ce cycle de conférences, même si elle en a fait partout déjà en France. Merci en tout cas de ce passage par Grenoble. Et je la remercie d'avoir accepté notre invitation, nous faire l'honneur de sa présence, afin de venir nous présenter son livre intitulé « Le coût de la virilité ». Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Puis ce seront Titiou Lecoq, Candice Deléo, Tess Kinski, Margot Collet qui viendront faire vivre ces conférences et nous présenter leurs idées dans les semaines qui viennent. Donc on espère que vous serez là aux suivantes et que vous ferez venir également d'autres personnes. Nous avons appelé ce cycle de conférences « Le féminisme fait le printemps ». Car c'est bien l'aube d'une nouvelle saison que nous vivons depuis quelques années. La parole des femmes se libère autant que l'écoute. Nous prenons conscience, et il était temps, de la profondeur des enjeux auxquels nous faisons face. Les inégalités femmes-hommes sont partout, tout le temps. Il nous faut poursuivre ce travail de sensibilisation auprès de l'ensemble de nos sphères, et je sais que beaucoup ici le font au quotidien, dans leur métier, dans leur travail, dans leur association, dans leur voisinage, dans leur combat de longue date. Et nous devons donc le faire dans l'ensemble, auprès de l'ensemble de nos sphères, professionnelles, amicales, familiales, amoureuses, pour réellement faire évoluer la situation dans laquelle nous sommes. À ce titre, je souhaiterais citer un passage de votre livre, chère Lucile Pétavin. Un passage qui m'a marqué. Vous écrivez « La virilité a un coût extrêmement élevé. Hommes et femmes, nous en payons tous le prix, financier ou humain. Dans une société qui a plutôt l'habitude, finalement, de calculer tous les coûts, il était intéressant qu'effectivement, cet angle-là puisse être tout simplement porté à la connaissance. Et lorsque l'on regarde les sommes, c'est vertigineux en fait. À des moments où on nous parle de quelques centaines de milliers d'euros, centaines de millions d'euros, quand on commence à voir arriver des milliards, effectivement on se dit que cette évaluation a plus que le mérite d'être là, mais en tout cas de nous amener de fait un véritable regard et des réponses collectives à cela. Je trouve cette phrase essentielle. Nous sommes tous concernés par ce qui est en train de se passer sans forcément le conscientiser, je vous en prie, ou en tout cas à des degrés divers. Nous le subissons, hommes et femmes. Je dis cela pour que nous prenions d'autant plus conscience que cette lutte pour l'égalité nous concerne évidemment toutes et tous. C'est un livre plein d'intelligence, de subtilité, qui s'apprête à nous être présenté. Et je vous le recommande évidemment. Et merci d'ailleurs, je me permets, je le dis ici, à la librairie Artaud d'avoir été à nos côtés. Merci à elle, là aussi, un acteur local que l'on connaît toutes et tous ici. Je vais laisser sans plus tarder la parole à la meilleure ambassadrice de cet ouvrage, c'est-à-dire son autrice. Je tiens néanmoins à m'excuser, je vous l'ai dit en début, auprès de Lucile Pétavin, car j'ai effectivement été convié, il y a quelques jours, à rencontrer les époux Klarsfeld, de passage là, sur notre métropole, et je ferai évidemment de mon mieux pour revenir le plus vite possible vous rejoindre. Merci en tout cas, merci par ce passage par Grenoble, et merci en tout cas de lancer cette série de conférences. Et peut-être qu'ils en appelleront d'autres. Et merci en tout cas, c'est particulièrement beau et chouette de vous voir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Merci infiniment.
Juste deux petits mots. Donc, oui, on m'a demandé de dire encore juste deux petits mots donc de présentation. Donc, pour Lucile Pétavin, donc, historienne de formation, experte dans la formation des violences pour le cabinet Pistel. Elle est aussi membre de l'Observatoire sur l'émancipation économique des femmes et de la Fondation des femmes. Elle est également cofondatrice de l'association Genre et Statistiques. Et bien sûr, donc, l'autrice du livre Le coût de la virilité, dont il va être question maintenant. Pour un moment, et ensuite, on aura des questions, un échange avec la salle. Et puis enfin, donc, vous avez un stand effectivement de la librairie Artaud qui est juste là à côté, à la fin, si vous voulez soit acheter le livre parce que vous ne l'avez pas encore, et puis ensuite pouvoir aussi le faire dédicacer par Lucile Pétavin. Voilà, je crois que j'ai tout dit, c'est à vous.
Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, alors j'espère que vous m'entendez bien. Alors effectivement, ce soir, nous allons parler de la virilité, et c'est un sujet qui... C'est vrai, et parfois un peu sensible. Il peut être un peu, auprès des hommes notamment, un petit peu sensible. Et la première chose que je tiens à dire, c'est que quand on parle de virilité, on parle d'une notion qui est culturellement construite, qui est socialement construite, qui est une notion à travers laquelle on éduque encore aujourd'hui, notamment les garçons, notamment les hommes. On va y revenir. Voilà. Mais il me semblait que c'était un point important à dire tout de suite. Voilà, que quand on parle de virilité, on parle d'une notion qui est socialement construite. Alors je vais commencer par vous dire tout d'abord comment je me suis intéressée à ce sujet, comment j'en suis venue à donc écrire ce livre sur le coût de la virilité. Alors effectivement, dans mon parcours universitaire, professionnel, associatif, ça fait très longtemps que je travaille sur les différences entre les hommes et les femmes dans la société. Et c'est à cette occasion qu'un jour, j'ai découvert une statistique qui m'a laissée sans voix. Cette statistique, la voici. La population carcérale masculine représente 96,3% du total. Donc en un mot, les prisons sont remplies d'hommes. Alors moi, lorsque j'ai découvert ça, je me suis demandé comment il était possible que je ne sois pas au courant. Bon, je me doutais bien que le chiffre devait être un peu élevé, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Et puis je me suis demandé comment il se faisait que ça ne fasse pas plus débat dans la société, qu'on n'en parle pas plus. Et puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire de la violence dans notre société, notamment du rapport entre les hommes et la violence dans notre société. Et donc j'ai creusé, je suis allée chercher plus loin d'autres chiffres, d'autres statistiques sur le sujet. Et effectivement, très rapidement, je me suis aperçue que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de violence, de délinquance, de criminalité et de comportements à risque. Et une fois que j'ai eu cela en tête, je n'ai plus tout à fait vu la société de la même façon. J'ai regardé les choses un petit peu différemment autour de moi. Et un jour, alors que je me promenais dans la rue, il y a des services de police qui sont passés devant moi, toutes sirènes hurlantes. Bon, ok, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais l'idée qui m'est venue à ce moment-là, compte tenu de ce que je venais de découvrir, était quelque peu singulière, puisque je me suis dit que très probablement, ces services de police intervenaient pour faire face à un délit commis par un homme. Voilà, il y en a qui suivent, c'est bien. Et donc je me suis dit, ok, il y a ces services de police, mais s'il y a des victimes, il y aura des services de secours. Si les victimes ont des séquelles graves, il y aura peut-être des services de santé. Et puis si l'auteur des faits est poursuivi par la justice, il y aura donc des services de justice, puis peut-être des services de prison, des services de réinsertion, etc., etc., etc. Et donc là, je me suis dit, mais combien nous dépensons, nous, l'État, la société, chaque année, pour faire face à ces délits? Et c'est vrai que jusque-là, c'était une question que l'on ne s'était jamais posée sous cet angle statistique et économique. Donc, je me suis lancée dans ce que j'ai appelé l'estimation, le calcul du coût de la virilité. Je reviendrai un peu plus tard en vous expliquer pourquoi je l'ai appelé ainsi. Mais en tout cas, voilà, je me suis lancée dans ce travail d'estimation. Alors, lorsque je dis que les hommes sont responsables de l'immense majorité des faits de délinquance, de criminalité, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quels chiffres je me base? Eh bien, selon les statistiques officielles, c'est-à-dire qui sont produites par les ministères de la Justice et de l'Intérieur, aujourd'hui, les hommes représentent 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice. On l'a dit, donc la population carcérale masculine représente 96,3% du total. Et si on regarde par type d'infraction, on voit que les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions, et notamment les plus graves. 99% des auteurs de viol, 97% des auteurs d'agressions sexuelles, 86% des auteurs d'homicides, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 95% des auteurs de vol avec violence, 91% des auteurs de cambriolage, etc., etc., etc. Et donc, quand on est face à ces chiffres, on peut en conclure plusieurs choses. C'est que bien sûr, tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, mais que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela est vrai, quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle ils se trouvent, le milieu social dans lequel ils ont grandi, la zone géographique dans laquelle ils habitent, on peut prendre tous les autres critères, il y a un gouffre systématique entre les hommes et les femmes sur cette question. Si bien que le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels est bien le sexe, et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin. Et effectivement, on en arrive à une situation où aujourd'hui, les ministères de la Justice et de l'Intérieur fonctionnent en grande majorité pour les hommes. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est presque jamais questionné par notre société. Et je pense même qu'on peut parler d'un véritable point d'aveuglement. parce que quand j'ai voulu donc rédiger mon essai, le plus difficile a été de trouver des données, des études qui indiquaient les taux de responsabilité entre les hommes et les femmes sur les sujets de délinquance et de criminalité. Par exemple, le ministère de l'Intérieur produit les soirs de matchs de foot voilà, des études qui montrent à quelle heure il s'est passé quoi, quel était le profil des victimes. Enfin, on a tout un tas d'informations, mais à aucun moment il n'est dit que dans 99% des cas, très certainement ces soirs-là, eh bien, le profil des auteurs était donc d'être de sexe masculin. Et finalement, ça a été peut-être la plus grande difficulté, c'est de trouver ces données ventilées par sexe, de dépasser ce point d'aveuglement. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est encore là parce qu'on considère d'une part que, eh bien, si les hommes sont violents, délinquants, criminels, c'est parce qu'encore il y a beaucoup d'idées reçues qui expliqueraient que ça relèverait de leur nature, qu'on ne pourrait rien y faire, on y reviendra largement. Et puis parce que dans notre société, les comportements des hommes représentent les comportements de l'ensemble de la population. Par exemple, moi, je suis historienne. Pendant très longtemps, quand on a fait l'histoire des hommes, on pensait avoir fait l'histoire de toute la population. Or, on va voir que non. Sur cette question-là, la moitié de la population, à savoir les femmes, on y reviendra, commettent très peu ou pas de faits de délinquance comparés aux hommes. Donc, une fois que j'ai surmonté cette difficulté, tant bien que mal, d'accès aux données statistiques, je me suis donc lancée dans l'estimation. Et donc l'estimation des dépenses qui sont liées à cette surreprésentation des hommes dans la délinquance et la criminalité. Alors qu'est-ce que, effectivement, le coût de la virilité et qu'est-ce que ces coûts liés à une surreprésentation ? Ce que j'ai fait, c'est de calculer un différentiel, c'est-à-dire la différence entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. En fait, le coût de la virilité, c'est un surcoût qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. Voilà, c'est le titre de mon essai. Et ces coûts, ils sont de deux ordres. Alors, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, il y a des coûts directs, donc qui sont supportés par l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et puis des coûts indirects qui sont supportés par la société et qui sont liés aux souffrances physiques, psychologiques des victimes, aux pertes de productivité ou encore aux destructions de biens. Et donc, je vais arrêter ici le suspense et vous dire à combien j'ai estimé ce coût de la virilité par poste. Eh bien, pour les services de défense et de sécurité, je l'ai estimé à 9 milliards d'euros sur les 13 milliards d'euros par an dépensés au total. Pour les services de justice, je l'ai estimé à 7 milliards d'euros par an sur les 9 dépensés au total. Pour les coûts et violences volontaires, je l'ai estimé à 18 milliards d'euros par an sur les 26 dépensés au total. Pour les crimes et délits sexuels, je l'ai estimé à 17,8 milliards d'euros par an sur les 19 au total. Pour l'insécurité routière, je l'ai estimé à 13,3 milliards d'euros par an, etc., etc., etc. Si bien que je suis arrivée donc à une estimation qui est à 95,2 milliards d'euros par an, donc près de 100 milliards d'euros par an. Donc, en effet, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait colossal. Mais il faut savoir que c'est une estimation qui est largement sous-estimée. Et elle est largement sous-estimée pour deux raisons principales. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la difficulté d'avoir accès à des statistiques ventilées par sexe. Et la deuxième, c'est que, bien sûr, il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale et donc je n'ai pas pu les prendre en compte dans mon calcul. Mais en tout cas, 100 milliards d'euros par an, c'est tout à fait important. Et effectivement, ça permet d'objectiver, de rendre plus objectifs les conséquences donc, de tous ces comportements sur la société. Une fois que j'ai eu ce chiffre, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que nous sommes condamnés chaque année à payer ces près de 100 milliards d'euros ? Estimation basse. C'est-à-dire que finalement, est-ce que il y aurait quelque chose dans la nature des hommes, dans leur biologie, leur physiologie, qui les pousserait à se comporter de cette façon et donc on ne pourrait rien y faire. Ou alors, est-ce que l'explication se trouve du côté de la culture, quelque chose qui est en dehors des hommes mais qui les pousserait à avoir davantage de comportements asociaux des femmes? Et donc à cette question, bah déjà, le simple fait qu'il y ait des femmes qui soient capables de violence au même titre que les hommes, et des hommes qui soient tout à fait pacifiques et qui le restent toute leur vie, semble bien prouver qu'effectivement, cela ne découle pas du sexe des personnes. Mais il est vrai que sur ce sujet, il y a encore beaucoup d'idées reçues qui circulent. Et dans mon livre, je les ai déconstruites, enfin, je les ai questionnées, et je les ai appelées des mythes. Le premier de ces mythes, c'est celui du temps des cavernes. Je suis sûre qu'il vous dit quelque chose. C'est-à-dire que quand on parle de la violence des hommes, on s'entend dire « oui, mais déjà au temps des cavernes, les hommes chassaient pendant que les femmes restaient dans les grottes enfantées, donc ça prouve bien que ça a toujours été comme ça, ça fait partie de notre nature et donc ce sera toujours comme ça ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette image du temps des cavernes, donc on est au paléolithique, entre moins 3 millions et moins 12 000, on commence le néolithique ensuite, eh bien cette image nous vient des historiens du 19e siècle, qui ont, à l'époque, plaqué sur les traces archéologiques qu'ils découvraient les propres représentations qu'ils avaient des rôles sociaux entre les hommes et les femmes dans leur époque, dans leur société. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'ils découvraient une sépulture avec un squelette richement paré, avec des armes, voilà, avec des attributs de puissance, ils se disaient, aucun doute, c'est une sépulture d'homme. Mais aujourd'hui, avec les techniques modernes, on s'est aperçu que certaines de ces sépultures étaient en fait des sépultures de femmes. Et finalement, voilà comment, dans le temps, on a construit cette image donc, d'un monde où les rôles sociaux étaient figés, divisés entre les hommes et les femmes. Et ce que nous montrent les paléohistoriens aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, c'est qu'au paléolithique, les femmes aussi chassaient. Les femmes aussi avaient du pouvoir, elles ne restaient pas dans les grottes à enfanter. Et il y aurait eu une dégradation de leurs conditions de vie un peu plus tardivement, au néolithique, enfin, ça dépend des zones géographiques autour de la planète. Et les paléohistoriens ont découvert sur des traces, des squelettes de femmes, des traces beaucoup plus systématiques de pénurie ou de violence, par exemple. Et donc, ce que nous expliquent les paléohistoriens, tels que Paul de Moule, par exemple, c'est qu'à partir d'un certain niveau de développement cérébral, la culture l'emporte nettement sur la nature, et qu'il n'existe pas de fatalité biologique ou sociale à la domination masculine. Donc, ce mythe, aujourd'hui, nous sommes en train de le déconstruire. Le deuxième mythe, c'est celui de la testostérone. Alors, celui-là, il revient sans cesse, cette malheureuse hormone porte beaucoup de choses sur ses épaules. Alors, effectivement, on fait souvent le lien entre testostérone et violence, virilité, parce que, en effet, c'est une hormone qui joue un rôle important chez les hommes, notamment dans le développement de la musculature et des poils, donc des attributs considérés comme virils. Alors, il faut savoir que les femmes aussi en produisent de la testostérone à des taux 7 à 10 fois inférieurs à ceux des hommes, donc ce n'est pas une hormone uniquement masculine. Et effectivement, la science s'est posée la question, est-ce qu'elle est bien à l'origine de tous les maux de la Terre? Et ce que nous indiquent les études récentes, c'est que cette hormone, chez un même individu, elle peut être aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente. Et ça a été notamment corroboré par des études qui ont été faites sur les primates, puisque les primates ont le même système hormonal que nous. Et donc, on a découvert que, par exemple, chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui dominent, et donc là, ils ont des niveaux de testostérone élevés, alors que chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent, et là, les mâles avaient des niveaux de testostérone bas. Donc finalement, cette hormone, elle fluctue en fonction du rôle social dans lequel on se trouve, dans lequel les mâles se trouvent. Et enfin, troisième idée reçue, le cerveau, puisque pendant très longtemps, on a pensé que femmes et hommes, on avait des cerveaux différents, des aptitudes, des capacités différentes. Alors là aussi, le 19e siècle est passé par là, à un moment où la neurobiologie en était à ses balbutiements, se développait. Et il y a notamment un neurologue qui s'appelait Paul Broca qui... Alors, sa question, c'était de savoir est-ce que l'intelligence est corrélée au poids des cerveaux et est-ce que le poids des cerveaux est corrélé au sexe des personnes qui le portent. Alors, il a pesé quelques dizaines de cerveaux, des cerveaux de femmes, des cerveaux d'hommes, et il s'est aperçu qu'il y avait quelques grammes de différence et notamment que les cerveaux des femmes étaient moins lourds que ceux des hommes. Alors, il s'est dit, bon, ben voilà, on a trouvé pourquoi les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Alors là aussi, heureusement, les techniques ont évolué et aujourd'hui, on sait que l'intelligence n'est pas corrélée à la taille du cerveau et que la taille du cerveau n'est pas corrélée au sexe des personnes. Et par exemple, le cerveau d'Einstein qui a été conservé dans du formol après sa mort dans les années 50, eh bien, il a un poids qui est de 10% inférieur à la moyenne. Donc voilà, tout est... Il n'y a pas de fatalité là non plus. Donc ce n'est pas non plus le cerveau d'homme ou femme qui prédétermine nos comportements parce qu'aujourd'hui on sait que lorsque l'on est, qu'on soit un garçon ou une fille, il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites. Les 90% restantes se modèlent en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos expériences. C'est ce que nous appelons la plasticité cérébrale et cela tout au long de la vie. Et enfin, l'anthropologie est venue corroborer ces résultats. Et notamment, on peut citer, par exemple, les travaux de l'anthropologue Margaret Mead, qui date quand même, alors ces travaux-là, des années 30, puisqu'elle a travaillé sur des peuples primitifs en Malaisie. Et elle a relevé que dans certains de ces peuples, les rôles sociaux entre les hommes et les femmes étaient différents des nôtres et même étaient inversés. C'est-à-dire que dans certains de ces sociétés, il revenait aux hommes d'être doux, tendres, pacifiques, tout ce que nous, nous attendons plus des femmes. Donc finalement, si on croise tous ces champs disciplinaires, bon, ben, il ne reste pas grand-chose de la biologie ou d'une nature masculine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, hein, quand je sais pas, devant les tribunaux, quand les hommes sont jugés, à aucun moment on ne dit bon, bah, puisque monsieur a des niveaux de testostérone élevés, on va le disculper de fait. Bon. Voilà, on voit que tout cela n'a pas de sens et que donc, effectivement, les origines de cette surreprésentation des hommes dans la délinquance et la criminalité est à chercher ailleurs. Et sur cette question, les sciences de l'éducation, la sociologie, nous apportent des réponses. Et elles nous montrent qu'encore aujourd'hui, nous n'éduquons pas tout à fait les garçons comme on éduque les filles. C'est-à-dire que nous ne leur transmettons pas tout à fait les mêmes normes et les mêmes valeurs pour vivre dans la société. La notion au cœur de cette différence entre l'éducation des garçons et des filles est la virilité. Alors, qu'est-ce que la virilité ? Donc, si on remonte à l'étymologie du terme, donc en sanskrit vira, qui désigne le héros, et c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physiques et moraux. Et c'est une notion qui, finalement, est aujourd'hui encore une norme à atteindre qui définit ce que doit être un vrai homme. Sur le sujet, je vous invite à lire les travaux d'Olivia Gazalé, qui est philosophe et qui a écrit donc le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, qui est une perle. Et donc, on éduque encore aujourd'hui les garçons dans cet idéal normatif qui va définir la masculinité, les masculinités, puisqu'on a vu que les masculinités, elles, peuvent être plurielles. Et éduquer les garçons à être les plus forts, moralement, physiquement, on le fait sans toujours nous en rendre compte. Parce que nous-mêmes, nous avons été éduqués à travers ces schémas et on les transmet de façon, parfois, souvent, inconsciente. Mais effectivement, sur ce sujet, il y a de nombreuses expériences qui ont été faites, qui indiquent par quel mécanisme tout cela se transmet. Et cela commence très, 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 très tôt dans la vie des garçons. Donc, on va parler des garçons ce soir parce que c'est eux qui nous intéressent. Et notamment, il a été démontré que nous, les parents, les adultes, l'entourage, eh bien, lorsque on a affaire à un bébé garçon, nous avons des rapports physiques beaucoup plus toniques avec lui, c'est-à-dire que nous valorisons beaucoup plus sa force physique. Nous verbalisons, par exemple, aussi moins les sentiments. Par contre, nous valorisons la colère. Par exemple, lorsqu'on lit une histoire à un petit garçon, on surjoue beaucoup plus la colère que lorsqu'on la lit à une petite fille. Également, nous sommes plus permissifs avec les garçons. On se dit, bon, après tout, c'est pas si grave, ce sont que des garçons. Donc, les comportements perturbants des garçons sont moins sanctionnés que ceux des filles. Les garçons sont plus libres de leurs mouvements, moins sensibilisés aux dangers aussi. Et donc, de cette façon, nous, les parents, l'entourage, les adultes, nous créons comme ça un terrain aux futures conduites déviantes sans toujours nous en rendre compte ou parfois en minimisant les faits, en se disant, bon, bah, après tout, c'est des enfants, c'est innocent, c'est pas si grave. Mais il est vrai que la violence s'exprime très rapidement dans les jeux des garçons. Alors, avec les jeux de bagarre, les jeux de bataille, les jeux avec les armes factices, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 90% des cas, dans les catalogues de jeux, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Et d'ailleurs, comment pouvons-nous accepter, sans le remettre en question, que des jouets puissent avoir la forme d'une arme ? Effectivement, donc, il y a les jouets, mais il y a la culture. Hein. Les parents ne sont pas seuls. Il y a la culture qui joue un rôle déterminant, puisque aujourd'hui encore, dans les livres, dans les films, l'immense majorité des héros sont des garçons, sont des hommes, qui s'adonnent à une violence qui est bien souvent légitimée, ne serait-ce que pour sauver le monde, tout simplement. Et effectivement, les garçons développent une appétence pour cette violence, s'identifient forcément à ces personnages. Et cela, enfin, la construction de cette identité virile, elle est extrêmement prégnante au moment de l'adolescence. Parce que l'identité virile se construit entre les yeux des pères. Et donc, ça passe entre les yeux des garçons, entre eux. Et donc, à l'adolescence, les garçons, pour prouver qu'ils sont forts moralement, physiquement, vont se donner des coups, s'insulter, par exemple. Et il va falloir qu'ils montrent qu'ils résistent à cette douleur morale et physique. Et sur ce sujet, les sociologues parlent de véritables rites de passage. Et enfin, un dernier point que je voudrais aborder sur l'éducation des garçons, qui, à mon sens, me semble absolument central et qui est pourtant assez peu abordé, c'est l'éducation, enfin la transmission du mépris du féminin. C'est-à-dire que très tôt, nous apprenons aux garçons qu'être un homme, c'est surtout ne pas être une femme. Donc surtout pas de rose. Surtout pas de couette, surtout pas de posture trop efféminée. Quand on les compare aux filles, ça va être pour les humilier. Tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille. Et donc, de ce fait, les garçons intègrent très rapidement que le féminin est méprisable, que les femmes sont inférieures aux hommes. Et donc, il faut avoir bien conscience que lorsque nous faisons cela, nous créons in fine des comportements sexistes et homophobes. Et donc, on s'aperçoit effectivement, qu'il y a une acculturation des garçons tout au long de leur vie, dès les premiers jours, à se comporter en tant que dominants. Et le problème, c'est que de cette virilité, nous en sommes toutes et tous victimes. Alors bien sûr, nous, les femmes, par les violences sexistes systémiques que nous subissons, rappelons une réalité qui devrait tous nous révolter. Je ne vais citer qu'un chiffre hein, parce qu'une femme meurt encore tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon en France. Mais les hommes payent aussi un prix à cette virilité. Alors il y a ceux qui ne répondent pas aux injonctions de la virilité. Alors notamment, on a parlé de l'adolescence, hein, mais les garçons qui vont être considérés comme efféminés, intello, voilà, vont être rejetés, parfois dans des situations de harcèlement qui peuvent aller très loin. Mais il y a aussi les hommes qui répondent aux injonctions de la virilité. Est-ce que vous savez que déjà à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident ? Que 78% des morts sur la route sont des hommes ? Que l'immense majorité des cas de cancer liés à des comportements addictifs de tabac, d'alcool concernent les hommes ? Et que donc, si on prend la population des hommes dans son entièreté, ils ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, que les femmes, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque. Donc, la virilité, elle est extrêmement coercitive, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce que prouver sans cesse qu'on est fort moralement, physiquement, ça a un coût sur la santé et sur la vie des hommes. Donc, nous devrions tous prendre conscience de ces conséquences et de sortir de ces schémas. Alors, après avoir bien cassé l'ambiance, je vais en venir à quelque chose de beaucoup plus positif. Quelles sont les pistes de solution ? Quelle est la solution ? Comment on sort de tout ça ? Eh bien, je l'ai trouvé dans les chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moitié de la population, à savoir les femmes, qui représentent 51,6% de la population, donc les femmes qui ne sont pas une minorité, toujours bien de le rappeler, et qui sont peu ou pas éduquées à travers ces comportements virils, ont des comportements beaucoup plus altruistes, beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et effectivement, il apparaît que les femmes reçoivent une éducation qui cultive leur empathie, qui leur permet une meilleure compréhension, gestion de leurs émotions. Les femmes s'autorégulent beaucoup plus. Alors, souvent, on dit que les femmes sont hystériques, mais quand on regarde les chiffres, c'est pas vrai du tout. Et donc, effectivement, elles reçoivent une éducation qui favorise la constitution d'un capital humain qui va dans le sens d'une plus grande cohésion sociale. Et donc, finalement, bah, la solution, on l'a sous les yeux. On l'applique déjà pour la moitié de l'humanité, la moitié de la population. Donc, éduquons les garçons comme les filles. C'est-à-dire, par exemple, permettons-leur aussi de jouer avec des poupons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui. Développons davantage leurs sentiments pour qu'ils soient plus empathiques. Contraignons-les suffisamment pour qu'ils respectent les règles. Tout ce que l'on fait déjà avec les filles, avec les femmes, et qui a des effets tellement plus positifs sur l'ensemble de la société. Mais je sais que quand je dis ça, ça fait un peu grincer des dents. Parce que, ok, les chiffres, le constat, les coûts, ça, ça va. Mais alors, éduquer les garçons comme les filles, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Et on l'a dit tout à l'heure, hein. Pourquoi ? Parce que le féminin est finalement méprisable et que ce n'est pas digne des garçons d'être éduqués comme les filles. Mais finalement, quand je dis éduquer les garçons comme les filles, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner une éducation plus humaniste à l'ensemble des enfants qui développent l'empathie, l'altruisme, le respect des règles, le vivre ensemble. C'est une éducation plus humaniste. Et donc, si on faisait cela, eh bien, on économiserait à minima 100 milliards d'euros par an. Alors, pour vous donner quelques ordres de grandeur, on estime l'éradication de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros par an. La dette des hôpitaux, c'est 30 milliards d'euros par an. Le budget de la recherche, 50 milliards d'euros par an. Donc, on pourrait investir dans des politiques tellement plus porteuses plutôt que de construire des palais de justice et des prisons. Et puis, il y aurait des changements très important sur le quotidien des citoyennes et des citoyens, puisque les niveaux de délinquance et de criminalité baisseraient de façon drastique. Et donc, plus personne n'aurait peur de marcher seul le soir dans la rue, de laisser ses enfants jouer dehors, de se faire cambrioler pendant les vacances. L'insécurité ne serait plus un problème. Et donc, on vivrait dans une société plus riche et plus apaisée. Et tant qu'à faire, je me suis posé la question, ok, donc si nous, on fait ça, on économise, ok, ça se passe comme ça pour nous, mais est-ce que ce serait pareil tout autour du monde. Alors, je suis allée voir les chiffres, et notamment les chiffres des populations carcérales par pays. Et il faut savoir que la population carcérale féminine la plus élevée au monde est celle de Hong Kong, mais ne représente que 20% du total. Donc, ce différentiel-là de responsabilité entre les hommes et les femmes, il est le même dans tous les pays et tout autour du monde. Donc oui, les conséquences humaines et financières de la virilité sont les mêmes tout autour du monde. Et puis, tant qu'à faire, je me suis dit quand même qu'il y avait d'autres questions hein, qui concernent l'ensemble de la planète qui mériteraient peut-être d'être étudiées à travers la question de la virilité. Par exemple, le sujet de l'écologie. Parce qu'en effet, il y a des études qui montrent que virilité et respect de l'environnement ne font pas très bon ménage. En effet, il n'est pas considéré comme viril de manger moins de viande, alors que c'est des industries les plus polluantes au monde. Il n'est pas considéré comme viril, par exemple, de conduire une petite voiture électrique, sans rentrer dans le débat de la voiture électrique, mais vous avez compris l'idée. Il n'est pas considéré comme viril de faire ses courses avec un sac en tissu réutilisable, etc., etc. Donc effectivement, l'écologie, hein, ça pourrait être un sujet très intéressant, voilà, de l'étudier à l'aune de la question de la virilité. Et puis, je me suis dit aussi que les politiques internationales, hein, tant qu'à faire, qui reposent encore trop souvent sur des rapports d'asservissement, de domination des peuples entre eux. Je pense que là, on a très clairement voilà, un exemple à nos portes. Et effectivement, il faut savoir que les guerres et le terrorisme coûtent 14 000 milliards de dollars par an tout autour du monde. Donc voilà un petit peu des sujets qui, à mon sens, qu'il faudrait traiter avec cette question de la virilité. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vais vous remercier pour votre attention. Je voulais vous dire que j'avais fait ce travail d'estimation pour qu'on prenne toutes et tous un peu plus conscience voilà, des conséquences de l'éducation à la virilité, des valeurs que nous transmettons aux enfants, pour que nous comprenions aussi par quel mécanisme tout cela passe, comment on peut le déconstruire. Et justement, parce que nous sommes toutes et tous responsables du monde dans lequel on vit, donc pour que nous fassions toutes et tous notre examen de conscience, voilà, et faire en sorte qu'on cesse de transmettre et de valoriser cette virilité qui nous coûte cher à toutes et tous. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci beaucoup. On va passer donc à un temps d'échange. S'il y a des questions, des commentaires, il y a déjà une main qui se lève tout là-bas.
Vous m'entendez ? Ah, super.
C'est parfait.
J'ai un exemple. En fait, mon petit frère, un matin, il a voulu mettre du vernis Spider-Man parce qu'il trouvait ça très très cool. Sauf que juste avant d'aller à l'école, il a eu très très peur de la réaction des autres petits garçons. Et donc, du coup, il a voulu qu'on lui enlève parce qu'il avait peur de la violence qu'il allait recevoir avec cette trace de féminité. Et donc, du coup, j'utilise cette anecdote pour illustrer le fait que l'effort, il peut pas être individuel parce qu'à chaque fois qu'il est individuel, il vient être contré par la société. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cet effort il devienne collectif, finalement ?
Oui, effectivement, c'est une question qui est collective, qui se joue à toutes les strates de la société. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'auteurs qui s'emparent de cette question, et notamment à destination des enfants. Alors, pour les petits garçons qui ont 4, 5 ans, je ne sais pas quel âge il a, mais il y a un livre, une BD qui s'appelle Patatouille. Alors, Patatouille, c'est un monstre qui incarne la virilité et qui pousse l'enfant à se comporter de façon voilà, virile, à ne pas obéir, sauf que le petit garçon a plus d'idées de la suite dans les idées. Et donc, il arrive à convaincre Patatouille, finalement, que c'est sympa de mettre du vernis, une robe, etc. Et que c'est pas fait... Voilà, le vernis, c'est fait pour les gens qui ont des ongles, hein, pas que pour les filles. Effectivement, je pense que c'est des questions qui mériteraient... d'être posé au sein de l'école, notamment avec ses outils. Alors aujourd'hui, on en est très loin. L'éducation nationale est très, très loin de s'emparer de ces sujets, même au niveau du collège ou au niveau du lycée. Voilà, il y a normalement quelques heures de cours qui doivent être dispensées sur les questions de vie affective et sexuelle. Alors, bon, les questions de virilité devraient aussi faire partie de ces cours. Hein, comment se construisent les rapports de domination entre les hommes et les femmes, parce que voilà, on ne va pas y arriver sinon. Bon, en tout cas, sachez que voilà, je vais faire tout mon possible pour que ça arrive dans les écoles.
Une autre question en haut.
Oui. Alors moi, déjà merci. Vous avez évalué ce que ça coûte ? Est-ce que vous avez évalué ce que ça rapporte ? Parce que à qui profite le crime ? Quelque part, c'est des emplois, c'est de l'activité, de l'économie et des gens qui en vivent. Quand on voit Israël, ce qu'ils font en termes de sécurité, qu'ils vendent tout leur système de sécurité, voilà, c'est un vrai business. Donc derrière, voilà, c'est Goliath contre David.
Alors tout à fait, ça profite aux dominants, hein, on ne va pas se mentir. Après, voilà, dans quelle société on a envie de vivre. Je pense que c'est des vrais projets collectifs. Et je pense que malgré tout, même si ça rapporte beaucoup d'argent, ça en coûte beaucoup, beaucoup. Hein. Est-ce que, alors, il y a des outils statistiques, économiques, qui permettent d'estimer la valeur d'une vie humaine, mais ça, c'est une question aussi philosophique. Voilà, je pense qu'on a tout à perdre à être dans les conflits, même si certains ont à y gagner, et que c'est en temps de paix qu'on produit le plus de richesses, mais de richesses humaines aussi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup, déjà, pour ce travail, à la fois le livre et à la fois... Moi, j'ai écrit une conférence sur le féminisme et la musique, et je me suis notamment inspirée de votre travail, donc c'est très agréable d'avoir de plus en plus de sources sur ce qui se passe dans notre société. C'est pas tout à fait le sujet de la conférence et du livre, mais puisque vous avez fait un élargissement sur l'écologie, je me permets de poser la question. Vous avez cité des exemples assez individuels, voilà, donc un peu anecdotiques, individuels. Il y a aussi beaucoup de recherches sur l'aspect macro, en fait, écologie. Est-ce que l'idée de cette prédation sur notre environnement, la naissance du capitalisme, l'industrialisation, on peut aussi considérer que c'est une conséquence de la virilité ? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Donc, du coup, de ce qui fonde les questions d'écoféminisme.
Alors effectivement, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que le féminisme s'est emparé de ces questions depuis très longtemps, depuis les années 70. L'écoféminisme voilà, a largement balayé, étudié le champ. Et effectivement, les rapports de prédation envers la nature, envers le vivant, je pense que dans la virilité, il y a un manque d'empathie pour le vivant. Mais même entre les êtres humains, hein, voilà. Et ça, je pense que c'est une des valeurs, effectivement, qui nous mène aujourd'hui, voilà, sur les questions, on a parlé de la viande, mais sur les questions d'élevage intensif, à ne pas considérer, par exemple, les animaux comme des êtres vivants, qui ont aussi, on le sait, les études l'ont montré, des sentiments, voilà. Je pense qu'effectivement, la virilité devrait être étudiée et déconstruite, et notamment pour ses effets sur l'environnement, sur l'empathie, sur le vivre, enfin voilà, le vivant qui nous entoure et le respect de la nature.
Une réaction, puis après, là. Oui, oui, vas-y, puis après.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Je vais essayer de formuler mon propos pour que ce soit clair, parce que ça me moque plein de choses que vous dites. Alors, comme vous l'avez très justement dit, un grand nombre d'infractions ne font pas l'objet de poursuites pénales. Mais alors, est-ce que de ce fait, il pourrait y avoir une forme de sous-représentation des femmes, justement, dans les condamnations, et qui pourrait justement être sous-tendue par des logiques sexistes, misogynes? Et en fait, pourquoi j'ai pensé à ça? Alors peut-être que c'est marginal, hein, mais j'ai pensé à ça parce qu'il y a un certain nombre de travaux en sociologie en fait, qui montrent, par exemple, en sociologie du droit de la justice, que dans les décisions de justice, souvent, les femmes sont moins condamnées parce que mères, parce qu'elles sont perçues comme ayant une utilité sociale plus importante. Je pense aussi aux travaux sur les contrôles aux faciès, qui touchent beaucoup les jeunes hommes, souvent maghrébins, enfin, du moins de type urbain. Enfin, voilà, ou aussi à des travaux, alors j'ai plus le nom de la chercheuse qui travaille sur ça, mais c'est une chercheuse à l'université de Bordeaux qui travaille sur les femmes qui vendent de la drogue, et justement elle explique un petit peu toutes les manières qu'ont ces femmes d'échapper justement à la justice, aux condamnations, et même en amont au contrôle de police. Alors est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez pris en compte ou qui est marginal? Donc ça c'était ma première interrogation, et puis j'avais un autre ordre d'interrogation, parce que vous parlez d'hommes, mais vous parlez d'hommes de manière homogène. Est-ce qu'il n'y a pas des différences entre les hommes, hein, en fonction de la classe ou la race? Parce que moi, ça m'évoque aussi quelque chose quand vous parlez de la surreprésentation des hommes dans les accidents de la route mortelle. Il y a un sociologue qui s'appelle Mathieu Grosstedt, qui a travaillé sur la mortalité au volant, et qui explique en fait que souvent les accidents mortels, c'est souvent provoqué par des jeunes hommes de classe populaire qui s'apparentent en fait à des suicides. Et du coup, voilà, je voulais savoir aussi si vous intégrez plutôt ces questions pour rendre moins homogène le groupe des hommes. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Alors, sur la question des femmes qui seraient traitées de façon plus clémente avec la justice, alors c'est parce que, de fait, elles commettent beaucoup moins de faits de violence, de délinquance. Elles sont moins récidivistes aussi. J'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que 90% des récidivistes sont des hommes. Et du coup, cela, moi, je l'ai pris en considération dans mon étude, c'est-à-dire que moi, je me suis basée sur les mises en cause. C'est-à-dire, c'est ce qui vient avant la condamnation, c'est-à-dire la procédure qui atteste que les personnes ont commis ou tenté de commettre une infraction pour évaluer mon calcul. Donc, finalement, je passe à travers... il n'y a pas ce biais dans mon calcul. Ensuite, sur la question... par exemple, de la population carcérale et la question du fait que du racisme, par exemple, qui pourrait expliquer une surreprésentation des personnes racisées, si j'ai bien compris votre question, et du fait que, parce que c'est posé cette question-là, je crois que c'est surtout ça, qu'il y a des personnes qui devraient y être, qui devraient être condamnées, qui ne le sont pas. Voilà, je pense que c'est véritablement ça le problème. Et après, sur la question du profil des auteurs, par exemple, au volant ou peu importe, qui sont d'un certain milieu, qui sont, je ne sais plus, peut-être, je ne me souviens plus, prenons un milieu, une classe, je ne sais plus, mais il y a aussi des femmes dans ces milieux. Il y a aussi des femmes qui peuvent avoir accès, je ne sais pas, à l'alcool. Je ne me souviens plus quel est le second critère que vous aviez...
Non, en fait, j'évoquais, parce que ça m'a fait penser à des travaux d'un sociologue, en fait, qui explique que, en fait, il est parti des campagnes de communication du gouvernement qu'on connaît tous responsables au volant, machin. Ouais. Et en fait, pour déconstruire ça et pour dire que, majoritairement, c'était des jeunes hommes de classe populaire sur des routes de campagne. Ouais. Et en fait, ça s'apparentait a priori à des suicides. Et que du coup, c'est pour ça que je me posais cette question, est-ce que aussi prendre en compte cette dimension peut-être de la classe, de l'âge, dans la mortalité, et du coup, les coûts, et du coup, pas que le fait d'être un homme. Enfin, prendre en compte différentes...
Alors, on peut dire qu'il y a d'autres facteurs qui jouent, la classe, par exemple, l'état dépressif, l'addiction, etc. Mais on voit bien que les femmes aussi peuvent avoir des moments de détresse psychologique, sont aussi jeunes à un moment de leur vie, passent le permis autant que les hommes, et pourtant... elles ne commettent pas, elles ne sont pas responsables, ou très peu, par rapport aux hommes, de la violence routière. Donc si on ne prend pas en fait en compte ce premier critère qui est le sexe, qui définit le profil des délinquants des criminels, on pourra évoquer d'autres causes, mais on passera à côté de la principale. Et c'est vrai que c'est ce qu'a fait jusque-là la sécurité routière, c'est-à-dire que les campagnes s'adressaient d'abord aux jeunes, sans dire que, chez les jeunes, ce sont dans l'immense majorité des cas les garçons. Et là, depuis 3 mois, je crois, la sécurité routière a enfin lancé sa première campagne en prenant en compte ces chiffres. Alors, ils ne se sont pas attaqués aux auteurs, ils se sont attaqués aux victimes et ont repris le chiffre que j'ai cité tout à l'heure en disant 78% des morts sur la route sont des hommes. Donc il y a quelque chose là à voir avec la virilité, la masculinité sur la route qui est problématique.
Oui, moi je voulais appuyer votre propos, notamment par rapport aux violences conjugales et aux violences faites aux femmes, qu'on a appelées effectivement, et moi au départ, où la première fois que j'ai entendu cette appellation, ça m'a énormément surprise et choquée, au lieu de parler de la violence masculine, puisqu'en fait la violence faite aux femmes, elle est peut-être pas à 100%, mais on va dire 95% faite par les hommes. Donc il y a quand même quelque chose aussi qui m'a beaucoup interrogée dans notre société. Alors je me suis occupée aussi d'égalité homme-femme en tant qu'élue, etc., pendant une quinzaine d'années. C'est qu'on ne nommait pas la question des auteurs. Et au départ, j'ai milité dans une association qui s'occupe des auteurs de violences conjugales. Et lorsqu'on portait cette question auprès des pouvoirs publics pour obtenir des financements... Eh bien, la première réaction, c'est de dire qu'ils aillent au diable, nous, on s'occupe des victimes. Sauf que s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de victime. Hein, comme s'il n'y a pas de conduite délictueuse, eh bien, il y a moins de suivi derrière, et donc du coup, ça coûte moins cher à l'État. Mais sans parler uniquement, je pense qu'il y a aussi un coût énorme dans notre société, au-delà du coût économique, les violences exercées sur autrui détruisent ces vies, hein, ces autrui, quoi, ces vies. Et ça, c'est au-delà du coût économique que ça engendre, ce sont des vies derrière qui sont gâchées, hein, et réduites. Enfin, on parle beaucoup en ce moment de la question de l'inceste ou des viols faits aux filles. Toutes les dépressions qui sont entraînées par ces actes criminels ont un coût sur la société, non seulement économique, mais humain. Donc c'est extrêmement important de parler des causes de ce que l'on constate et non pas uniquement des effets.
Alors vous avez tout à fait raison, et quand on dit violence faite aux femmes, oui mais faite par qui, on devrait peut-être parler des violences machistes. Enfin, dans d'autres pays, on utilise d'autres termes en tout cas. Et effectivement, aujourd'hui, on investit, enfin, là où on met l'argent, et on a raison de le faire parce qu'il y a de nombreuses victimes, mais c'est effectivement pour répondre une fois que les violences sont passées. Mais qu'est-ce qu'on fait pour couper le robinet? Qu'est-ce qu'on fait en aval? Qu'est-ce qu'on fait pour la prévention? Bon, ben aujourd'hui, pas grand-chose. Voilà. Et là, véritablement, il va falloir qu'on prenne le problème à bras le corps. Et sur la question du coût humain, alors dans mon calcul, je l'ai pris en compte. Je l'ai traduit en termes financiers parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des outils économiques qui permettent d'évaluer le coût d'une vie. Ça s'appelle la valeur de la vie statistique et effectivement qui nous permet de savoir combien, si on devait monétiser, combien coûte une vie, combien coûte un blessé grave, combien coûte un blessé moins grave, etc., etc. Mais vous avez raison, il faut le rappeler, que ce sont des coûts économiques qui traduisent des coûts humains qui sont colossaux.
Oui.
Merci à vous. Merci pour la conférence. C'était vraiment super intéressant. En fait, je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dite à propos des armes et de la couleur, de la différenciation couleur bleu-rose au niveau des garçons, puisque bah, étant donné que je suis un garçon, j'étais très touché par ça, et notamment par les armes aussi. Et je pense, alors je ne sais pas, mais je pense que le fait que la société américaine soit très présente économiquement, et économiquement, même socio-économiquement dans notre monde actuel, c'est vrai que c'est, je pense, le rapprochement aux armes est très prononcé. Et de fait, vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, vis-à-vis des violences faites directement aux femmes et sur les droits au corps que peuvent avoir les femmes aux États-Unis avec Roe versus Wade il y a quelques mois, d'autres lois qui sont passées qui sont encore plus violentes. En fait, mon rapport, c'est plus le fait que, vu que le capitalisme est excessivement présent, comment fait-on pour rendre plus égale une société qui est de fait inégale puisqu'elle est capitaliste ?
Est-ce que j'ai 4 heures ? Alors, je pense que justement, on est là peut-être pour échanger toutes et tous ensemble sur les valeurs qui permettent de contrer tout cela. Je sais que c'est peut-être dérisoire, mais on était jusque-là loin d'une prise de conscience. On en parlait tout à l'heure. D'où viennent les violences ? Par quel mécanisme elles se construisent ? Le fait que, oui, culturellement, on est... c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se joue à toutes les strates de la société. C'est-à-dire que le politique, la vie civile, on doit tous s'emparer de ce sujet. Alors, moi, demain, j'ai rendez-vous au cabinet d'Isabelle Rome. Je vais en parler avec eux, pour voir concrètement, au niveau des pouvoirs politiques, des politiques publiques qui sont mises en place, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que pour l'instant, quand on parle de programmes qui luttent contre la violence, on est loin de véritablement s'attaquer au problème. Et je pense que le problème culturel en est un, qu'il faut réfléchir ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de faire en sorte que nos enfants, nos garçons, aient moins accès à certains contenus, que que les parents puissent avoir des outils aussi, de savoir quelles conséquences ça a quand on éduque nos enfants d'une certaine façon. Enfin voilà, j'ai pas de recette magique, je comprends bien que c'est mondial. Et d'ailleurs, c'est vrai, alors peut-être un point, ça me fait penser aux pays du Nord, parce que c'est vrai, souvent on dit oui, mais dans les pays du Nord, ils sont plus avancés sur cette éducation. Et effectivement, sur les questions de partage de la parentalité, d'égalité salariale, ils sont plus en avance, ils sont plus inégalitaires que nous. Mais sur la question des violences, il y a des études qui sont intéressantes, qui montrent qu'au Danemark, en Norvège et en Finlande, 30% des femmes ont subi des abus ou des violences de la part de leurs compagnons, quand la moyenne est à 22% dans le reste de l'Europe. Cela s'explique par le fait que dans ces pays-là, la parole des femmes est plus libérée, mieux reçue. Donc effectivement, les chiffres sont plus importants. Mais toujours est-il que cette violence est là. Et effectivement, pour moi, c'est parce que nous sommes dans une culture qui est mondialisée. Les garçons dans ces pays-là ont les mêmes rôles modèles que dans les nôtres. Ils regardent les mêmes films, par exemple. Voilà. Et au Danemark, je crois qu'ils se sont rendus compte du problème et ils ont ajouté des cours d'empathie. Voilà. Bon, nous, on en est loin, mais on va pas baisser les bras.
Bon, un petit mot sur l'éducation nationale quand même, parce que je suis chargée de mission auprès de la rectrice de l'Académie de Grenoble sur le déploiement de la politique égalité dans les établissements scolaires. Du coup, je suis obligée. Hein. Mais du coup, ça donnera une petite note positive pour vous dire que quand même, on avance. On a des référents, référentes égalité dans quasiment tous les établissements scolaires. On est à 80%. On déploie les formations plus auprès de tous les adultes et personnels de l'éducation nationale pour qu'effectivement, ils ne réactivent pas les stéréotypes de genre et qu'ils essaient de ne pas faire en sorte que nos jeunes se conforment au rôle attendu par la société. Mais aujourd'hui, on était encore dans un séminaire de formation des personnels de direction sur la question de l'égalité. Et c'est difficile parce que c'est systémique, l'approche doit être globale. Au-delà de la formation, il y a effectivement le fait que l'école ne peut pas toute seule. Et que même sur les décisions d'orientation, lorsque le conseil de classe réussit à faire quelque chose qui ressemble effectivement à une décision non genrée, eh ben les familles elles interviennent et elles se réancrent sur des décisions qui les rassurent et qui sont du coup des décisions d'orientation genrée. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a en fait quand même des objectifs de développer l'empathie chez les petits à l'école. Ça s'appelle les cours de MC chez les tout-petits, voilà. Pour vous dire que, quand même, il se passe des choses de plus en plus intéressantes, mais vous remarquerez, hein, tous et toutes, que plus on avance, plus il y a des réactions réactionnaires très très violentes aussi. Hein. C'est-à-dire que plus on avance vers la complexité, plus on affole tout le monde. Voilà. Merci. Non, j'ai pas les chiffres de... Alors, l'éducation à la sexualité... Ah oui, ça, on le sait. D'ailleurs, j'ai ma collègue infirmière qui connaît par cœur les chiffres.
Le cadre, c'est 3 séances par niveau du CP à la terminale, et on sait qu'ils sont pas. C'est un peu compliqué. On sait que c'est sûr que c'est pas. Ils sont pas. La loi est pas respectée, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a des associations qui ont déposé plainte à ce propos. Après, par contre, l'éducation à la sexualité, c'est assez large, et du coup, ça englobe toutes les questions. À chaque fois qu'on fait une animation sur les compétences psychosociales, sur les stéréotypes de genre, ça rentre en fait dans le champ de l'éducation à la sexualité. Et parfois, les enseignants, les enseignantes et les élèves et les familles n'identifie pas ça comme étant l'éducation à la sexualité, alors qu'en fait ça rentre dans le champ. Donc les chiffres sont peut-être pas tout à fait justes. En tout cas, c'est sûr que la loi n'est pas respectée. Mais encore une fois, c'est un problème qui est global et systémique, et c'est difficile parce que pour mettre 3 séances par niveau et par an, du coup il faut des gens qui soient formés, il faut les moyens, il faut en établissement. Alors dans le premier degré, c'est moins le cas, mais en collège et en lycée, il y a un programme aussi qui est attendu à la fin de l'année pour les examens, et du coup, c'est compliqué de dégager du temps dans l'emploi du temps. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup de choses, mais en effet, le problème, il est vaste, et il faudrait que tout le monde s'y mette à tous les niveaux, chacun à son niveau, et c'est compliqué, mais en effet, il se passe quand même de plus en plus de choses intéressantes, et même on le voit chez les élèves, parce que même dans l'éducation des familles, je pense qu'il se passe des choses différentes avec des parents qui ont conscience, et on a des élèves qui, de plus en plus petits, viennent dire que non, ça c'est pas normal, il se passe ça, mais moi je trouve ça pas juste. Donc ça avance petit à petit.
En tout cas, ça permet d'ouvrir le débat.
Et localement, on n'a pas les chiffres. Nous, on n'a pas les chiffres parce qu'on n'est pas du coup sur la question de l'éducation à la sexualité, mais on n'a pas les chiffres de la question.
Je pense que je vais prendre une dernière question.
Il y en a une là-bas. La dernière, donc.
Oui. D'abord, du coup, merci pour votre travail. Moi, je me posais la question, du coup, j'ai bien compris le fossé que vous décrivez entre, et qui est entre toutes les classes de la société au niveau des crimes ou des délits qui sont commis plus par les hommes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre fossé, justement, au sein de ces classes, qui, ces délits, on les trouve plus dans les milieux précaires. Et aussi, je trouve, votre langue, il est très axé sur ce qu'on peut faire à tous les niveaux, individuellement, et ça déplace peut-être un peu la responsabilité sur les personnes au niveau individuel, alors que peut-être que c'est des soucis qui sont intrinsèquement liés au régime qui est capitaliste et donc patriarcal et impérialisme. Et du coup, je trouve que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les luttes aussi sur l'écologie et l'antiracisme, donc faire peser sur la responsabilité sur les individus et non sur les structures en elles-mêmes. Après, vous avez évoqué l'école, comment on peut s'emparer d'une structure qui est l'école pour lutter contre ça, mais je voulais aussi voir votre avis sur s'il y a un fossé aussi important entre les classes populaires, enfin les classes précaires, et sur les délits et tout ça.
Alors, il n'y a pas d'études véritablement sur ce point-là. Les études qu'on a, par exemple, sur les violences conjugales, c'est qu'elles touchent tous les milieux. On va penser que c'est en priorité les classes populaires, alors qu'elles touchent tous les milieux. Effectivement, moi, mon sujet, c'était pas de savoir quelles étaient les différences entre les groupes d'hommes selon leur âge, leur milieu. Voilà. C'était la différence à partir de laquelle je suis partie, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Et effectivement, de se rendre compte que dans un même milieu, avec les mêmes contraintes, parce que parfois, on va dire, oui, mais la délinquance est due à la pauvreté. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais les femmes aussi sont pauvres. Et elles le sont même davantage que les hommes si on prend en compte, par exemple, les écarts de salaire ou de taux d'emploi. Bah dans cette même situation, elles ne commettent pas ou peu de faits de délinquance comparés à leurs homologues masculins. Donc finalement, la précarité n'est pas la cause. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas avoir une influence, mais elle n'est pas la première cause qui va pousser à l'acte. Voilà. Et tant qu'on ne prendra pas en compte cela, tant qu'on ne prendra pas en compte ce critère qui est le premier, on passera à côté des véritables causes. On n'ira pas au cœur de comprendre véritablement comment ça se construit et effectivement, on n'en sortira pas.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Je dois juste vous dire donc, que cette conférence, vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de la Maison pour l'égalité femmes-hommes. Vous tapez juste Maison pour l'égalité femmes-hommes dans Google et vous tomberez sur le site. Que la prochaine conférence aura lieu le 1er juin avec Titiou Lecoq autour de son livre Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Merci beaucoup d'être venu.
Vous venez d'écouter Lucille Pétavin, autrice du livre « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes ». Dans le cadre du cycle de conférences de Grenoble-Alpes-Métropole, le féminisme fait le printemps. Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.